LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Faire une distinction et qui nous servira pendant toute notre discussion d'aujourd'hui. Je distingue vraiment de façon très forte entre la paix et le processus de paix. La paix est un choix éthique, philosophique, un choix de vie, un choix de civilisation, une valeur. Et nous avons opté pour cette valeur. Et puis, pour la rendre concrète, nous avons déclenché un processus de paix qui est l'aspect diplomatique de l'opération.
Hisser les drapeaux blancs, comment faire la paix? Marie Chartron, Franck Lilin. Aujourd'hui, sur le front des négociations.
La séance est ouverte.
Meeting is called to order. Заседание открыто.
Je demande au secrétaire général d'introduire auprès de la conférence la délégation italienne.
Paris, 1946, conférence de la paix.
I will request the Secretary General.
Les tribunes du Luxembourg sont aujourd'hui abondamment garnies, ainsi que l'hémicycle. C'est en effet cet après-midi, comme vient de le dire M. Georges Bidault, que M. de Gasperi, chef de la délégation italienne, sera entendu par la conférence. Par la porte principale, donnant accès à la salle des séances, face à la tribune, M. de Gasperi, vêtu de noir, entre précédé du secrétaire général de la conférence des 21 et du directeur du protocole. Tous les regards sont braqués sur lui. Il est suivi des 15 membres de la délégation qui prennent place à l'avant-dernier rang.
La conférence de Paris accueille en ce jour la délégation de la Nouvelle-Italie. Elle lui demande d'exposer avec une entière liberté ses vues au sujet du traité de paix qui la concerne.
Ici Jean Rabaud qui vous parle de Genève. La première séance de la conférence n'a pas duré plus d'une demi-heure. Elle a été consacrée, après les paroles de circonstance du président, le prince Wan, représentant de la Thaïlande, au règlement définitif de la question de la présidence. Celle-ci sera assurée alternativement par un délégué siamois, un délégué russe et un délégué britannique.
Que sera, que doit être cette conférence de Paris et comment se présente d'une façon plus générale l'élaboration de la paix?
Comment? Sans doute rarement spontanément, rapidement et harmonieusement. Où négocie-t-on? Qui a le droit de négocier? Qui ne l'a pas? Y a-t-il un bon moment pour le faire? Entre discussions bilatérales et multilatérales, secrètes ou publiques, rapports de force qui ne disent pas toujours leur nom et qu'on tente d'infléchir, effets d'annonce, langue de bois... Suivre la trace des négociations de paix dans les archives, c'est un peu comme pénétrer dans un atelier et vouloir surveiller tous les rouages d'une grande machine dont on n'a pas toutes les clés. Du Moyen-Âge aux négociations des accords d'Oslo, en passant par la guerre d'Indochine, les historiens Pierre Grosser et Nicolas Offenstadt nous aident à examiner certains de ces rouages. À la grande conférence de paix de Paris, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, certains délégués rappellent le droit de toutes les nations à être considérées comme souveraines.
Après une semaine uniquement consacrée aux commissions, les 21 se sont réunis ce matin au Luxembourg en séance plénière sous la présidence de M. Wang Qixie, premier délégué de la Chine. Les délégués ont entendu tout d'abord M. Sefabodi, chef de la délégation iranienne.
Tout d'abord, chaque nation doit pouvoir vivre indépendante à l'intérieur de ses frontières, libre de toute crainte et de toute question. Cette sécurité primordiale est, pour ainsi dire, ambiante. La charte atlantique, il la définissait déjà dans son sixième point de la façon suivante. Une paix qui permettra à toutes les nations de demeurer en sécurité à l'intérieur de leurs propres frontières et garantira à tous les hommes de tous les pays la possibilité d'une existence affranchie de la peur et du besoin.
Une grande partie des négociations d'État à État se sont construites avec, j'allais dire, les pratiques occidentales, même s'il ne faut pas exagérer leur généralisation dans le monde, mais en tout cas le langage de la souveraineté, le langage de l'intégrité territoriale, de l'État-nation, tout cela, ça s'est répandu. C'est pas nous qui l'avons imposé. La plupart des pays ont vu tout l'intérêt d'utiliser ce type de vocabulaire pour étendre, récupérer des territoires, s'étendre et autres.
Pierre Grosser.
On dit souvent que ce système dit westphalien date du traité de Westphalie de 1648. En fait, c'est vraiment quelque chose qui s'est construit encore au 18e, 19e siècle. Et c'est au 19e siècle qu'on a considéré vraiment ce que c'était qu'un sujet de relations internationales, c'est-à-dire un État internationalement reconnu qui pouvait rentrer dans des accords internationaux qui demandent de la réciprocité. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, le droit humanitaire, on considérait que dans les colonies ou dans les pays lointains, barbares, etc., c'était même pas la peine de l'appliquer, parce qu'il n'y avait pas un État qui pouvait faire de la réciprocité, par exemple, sur le traitement des prisonniers ou autre. Mais au départ, au moment où on a fait la conquête du monde, en tout cas des terrains qui n'étaient pas dans ce cadre westphalien, ce qu'on appelait les zones blanches de la carte, que ce soit en Amérique du Nord, ou que ça soit en Afrique, on a au départ un peu pratiqué ce type d'accord avec des entités plus ou moins définies, avec des chefs que l'on rencontrait, des chefs de tribus, de chefs. On parlait pas vraiment d'État, mais on a fait des accords qui permettaient finalement d'empiéter quelque peu sur leurs richesses, sur leur territoire et autres.
En 1872, le président Grant instaura un mode de relation avec les Indiens connu sous le nom de politique de la paix. Afin d'appliquer cette théorie, il avait choisi le général Howard, le chargeant de rencontrer les tribus sauvages de l'Arizona et du Nouveau-Mexique pour tenter de négocier avec elles, de rétablir la paix et de les implanter dans des réserves en tant que pupilles du gouvernement. Toutes ces tentatives pour parvenir jusqu'à Cochise depuis l'Arizona avaient échoué. Le général s'était laissé dire, alors qu'il était chez les White Mountain Apaches, que s'il allait à Tula Rosa, il trouverait dans la bande installée là-bas des hommes capables de le dénicher. Extrait du journal tenu en 1872 par le capitaine Joseph Alton Sladen, escorte du général Howard durant l'expédition menée pour faire la paix avec le chef Cochise.
Et puis, ce qui est intéressant dans la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est progressivement, il y a tout un tas de pays qu'on a considérés qui ne pouvaient pas être réellement des États parce qu'ils n'étaient pas suffisamment civilisés. Civilisés par leurs droits internes et civilisés par leur capacité à, finalement, avoir un réseau diplomatique, d'être capable d'être reconnu par leur degré d'avancement dans la civilisation. Et c'est pour ça que, finalement, ce qui était reconnu d'une certaine façon par ces premières négociations de la première moitié du XIXe siècle, ne l'est plus ensuite et ces pays deviennent des colonies ou sont carrément supprimés de la carte. Et vous avez eu tout un tas de petits pays qui ont essayé de se faire reconnaître comme État. Par exemple, Hawaï a essayé de se faire reconnaître comme État. Vous avez aussi en Asie du Sud-Est des petits États qui ont essayé de se faire reconnaître. Et puis, finalement, tant qu'ils n'étaient pas suffisamment mûrs pour être indépendants, on ne les a pas reconnus. Et c'est progressivement, on est rentré dans une autre période, dans les années 50, où progressivement, on a considéré qu'il n'y avait plus de conditions pour être un État. Il n'y avait pas besoin d'être, entre guillemets, civilisé, de respecter un certain nombre de conditions. Et ce qui est amusant, c'est que dans les années 90, on est revenu à cette souveraineté conditionnelle. C'est-à-dire que si vous ne protégez pas votre population, si vous violez les droits de l'homme, si vous ne faites pas du développement assez bien, etc., etc., vous n'êtes pas totalement souverain et donc les organisations internationales peuvent vous contraindre à faire telle ou telle chose pour respecter justement ces critères. Alors, ce n'est plus les critères de civilisation comme au 19e siècle, mais c'est les critères, par exemple, de bonne gouvernance, les critères de respect des droits de l'homme, etc., etc. Et donc, on vous a signé des conventions et on vous surveillait pour que vous fassiez bien ces conventions. Donc, on est revenu d'une certaine façon à cette souveraineté comme responsabilité, c'est-à-dire que vous devez mériter, j'allais dire, d'être d'une certaine façon, d'être pleinement souverain.
Avant le lever du soleil, nous étions tous à cheval, et l'ascension a commencé. Seuls les Indiens connaissaient le camp que nous venions de quitter, et notre piste à travers les montagnes est un secret bien gardé par les Apaches. Elle ne franchissait pas directement la chaîne, mais serpentait ici et là, tantôt s'écartant vers le sud, tantôt se repliant vers le nord. Depuis une haute crête, nos Indiens nous ont montré une dépression vers la gauche, en disant « l'Apache passe ». J'ai remarqué une vague piste qui partait de la nôtre pour s'éloigner soudain en ondulant dans cette direction. Là, soudain, je me suis demandé si des Apaches hostiles avaient souvent descendu cette piste pour tendre une embuscade à une troupe ou à une colonne, du haut des méandres et des recoins sinistres qui caractérisaient ce fameux défilé. Et si, après leur besogne sanglante, ces Indiens meurtriers avaient rebroussé chemin avec leur butin jusqu'à la source où nous avions précisément passé la nuit. J'avoue avoir eu de sombres appréhensions, et j'ai dit au général, tandis que nous nous éloignions de nos compagnons, « Général, vous prenez trop de risques. Votre devoir ne vous oblige pas à aller si loin. Qu'est-ce qui vous porte à croire que Cochise va vous recevoir et ne pas vous traiter comme tous les Blancs qu'il a déjà rencontrés ?»
Presidente, signori ministri, signori delegati, prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento...
Voici la traduction des principaux passages du discours prononcé par Monsieur de Gasperi.
Paris, conférence de la paix, le 10 août 1946.
Au moment de prendre la parole devant cette assemblée mondiale, j'éprouve le sentiment que... À part votre courtoisie personnelle, tout joue contre moi, en premier lieu ma qualité de représentant d'un pays ex-ennemi, qui me met au rang des accusés, et le fait que je suis appelé à comparaître ici après que les plus influents d'entre vous ont déjà formulé leurs conclusions au terme d'un travail long et laborieux. Ne vais-je pas courir le risque de vous apparaître comme un esprit étroit et perturbateur, porte-parole d'égoïsmes nationaux et d'intérêts unilatéraux. Vis-à-vis de mon pays et pour la défense de la vie de mon peuple, j'ai, messieurs, il est vrai, le devoir de parler en tant qu'Italien, mais je me sens également le devoir et le droit de parler en tant que démocrate antifasciste, représentant de la nouvelle République italienne qui, s'inspirant à la fois des idées humanitaires de Giuseppe Mazzini, des conceptions universalistes du christianisme et des espoirs internationalistes des travailleurs, et tout entière tournée vers cette paix durable et féconde qui est votre but, et vers cette coopération entre les peuples que vous avez pour tâche d'établir. Eh bien, permettez-moi de vous dire, avec cette franchise que commande à chacun de nous, en cette heure historique, le sentiment de notre responsabilité, permettez-moi de vous dire, à l'égard de l'Italie, ce traité est extrêmement dur.
Le diplomate est un soldat au service de son pays, mais qui n'a aucune arme. Sa seule arme, c'est la parole. Sa puissance de conviction, ses capacités d'exposition, et aussi ses talents d'observateur. Puisqu'il faut qu'il puisse se rendre compte, en conséquence, il faut qu'il puisse s'informer. Mais là aussi, le vecteur de tout ça, c'est la parole.
Nuit magnétique sur France Culture, le 10 février 1994. Guy Georgi, ambassadeur de France, au micro de Marie-Dominique Arrighi.
Donc, l'ambassadeur est toujours en dialogue. D'abord avec les autorités auprès desquelles il est accrédité dans le pays, les différents représentants de tel ou tel groupe d'intérêt qu'il doit pouvoir convaincre ou auprès de qui il peut s'informer ou dont il peut plus ou moins faire évoluer la pensée en donnant des explications ou des éclaircissements.
Pendant des mois et des mois, j'ai attendu de pouvoir exprimer dans son ensemble la pensée de mon pays à l'égard des conditions de la paix. Aujourd'hui encore, au moment où je suis devant vous en qualité de représentant d'un pays ex-ennemi, ce qu'en réalité le peuple italien n'a jamais été, je sais bien que vous-même devez éprouver la fatigue d'un long labeur et aspirer à sa conclusion. C'est pourquoi je me suis efforcé de maîtriser mes sentiments et de contrôler mes paroles afin de bien mettre en lumière que nous sommes loin de vouloir faire obstacle à votre œuvre. Au contraire, nous entendons bien apporter une contribution positive à l'établissement d'un monde plus juste.
L'objectif de la diplomatie, ne jamais être mauvais, c'est que vous êtes un agent éminemment pacifique. qui est envoyé dans un pays pour faire connaître la position de son pays, pour empêcher que des distorsions soient faites de la réalité, que les interprétations ne soient pas contradictoires avec la politique de votre pays. Vous entendez souvent médire de la politique de votre pays, dire des choses totalement fausses. Votre premier rôle, c'est de rétablir la vérité, car on n'est que des agents pacifiques. Nous n'avons pas d'autre chose. Même lorsque nous sommes contraints de présenter la rupture des relations diplomatiques ou de déclarer la guerre entre deux pays, ce qui peut se faire et se fait souvent deux fois, c'est juste après la déclaration de guerre que le travail du diplomate va commencer, qui est de nouveau comment repréparer la paix. Et comment faut-il déjà que vous pensiez aux négociations de paix qui ne manqueront pas d'arriver lorsque ce malheureux conflit se sera déroulé de part et d'autre ?
Allô ?
Oui ?
Bonjour, je vous appelle pour vous demander un conseil pour l'achat d'une table de conférence.
Oui, table de négociation, ça veut dire quand même arrondi à certains angles. Est-ce que c'est...
C'est mieux ?
Oui, c'est plus convivial. Hein. La négociation, le principe d'une négociation, c'est que tout le monde arrive à être d'accord sans encombre. Donc la géographie de la table a son importance, vaut mieux qu'elle soit ovale.
Faut mieux impressionner un petit peu ou...
Non, on n'est pas obligé d'impressionner un petit peu. Il faut être classique et solide.
Très bien. J'ai le cigare, je suis prêt à tout avec un cigare dans ma bouche. Oui.
Pierre Salinger, ancien négociateur et porte-parole de la Maison Blanche, 1975.
C'est une vieille habitude que j'ai prise quand j'étais très jeune. J'étais entré dans les forces navales américaines quand j'avais 17 ans et je me sentais pas aussi vieux que mes camarades. Alors j'avais besoin de montrer d'une façon que j'étais aussi vieux qu'eux et j'ai commencé à fumer les cigares. Pour moi, un peu, la vie a été la montée de qualité des cigares. Ils sont devenus de mieux en mieux.
La négociation est une affaire presque musculaire. On croit toujours qu'il faut être malin, avoir les arguments. C'est pas vrai du tout. Ça, je l'ai appris, ça. Moi, je n'avais jamais négocié avant. C'est une épreuve d'endurance physique, mais au sens littéral.
Quand vous négociez, ce qui compte le plus, ce n'est pas ce que vous allez mettre dans le texte de la négociation. Ce sont les arrière-pensées.
Boutros Ghali, négociateur égyptien, 1997.
Alors, si vous arrivez à connaître les arrière-pensées de votre adversaire, ou si votre adversaire connaît vos arrière-pensées, 50% des difficultés de la négociation sont résolues. Vous passez, je dirais, des années à vous voir régulièrement. Quand j'ai passé des heures, deux mois à nous voir deux et trois fois par jour, entre Wiseman, Moshe Dayan et l'équipe, il s'établit une sorte de cordialité, il s'établit même une sorte de... Je dirais même autre chose, il s'établit une sorte de confiance. Et je reviens à ce concept très important.
L'homme le plus incroyable que j'ai rencontré dans ma vie, c'était Nikita Khrushchev. C'était un homme d'une force. J'ai pleuré le jour qu'il est mort. Je sais toutes les choses qu'il a fait qui étaient mauvaises, le fait qu'il tenait des idées que j'étais pas du tout d'accord. Il voyait les choses dans la façon d'un paysan russe, mais un paysan russe qui avait vu beaucoup. Il avait un sens d'humour fantastique. Je me souviens que très peu après que nous sommes rencontrés la première fois, je descendais à une dacha, ça veut dire une maison d'invité, qui était à l'extérieur de Moscou, sur la rivière Moscou. Khrushchev est arrivé un matin vers 10 heures, le premier matin qu'on s'est rencontrés, il a dit « on va marcher ». Et soudainement, Khrushchev s'est commencé à parler du problème de l'agriculture soviétique. Et il a été fasciné par sa visite aux États-Unis et par la richesse de l'agriculture américaine. Il était même sidéré par ça. Et pour une heure, il m'a parlé des problèmes de l'agriculture soviétique. Et soudainement, il s'est arrêté au milieu de l'action. Il a dit, mais mon ami Salinger, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ce problème. Vous ne comprenez absolument rien de l'agriculture. Et j'ai dit, monsieur le président, c'est vrai. Il a dit, ouais, il ne faut pas vous inquiéter. Staline ne comprenait rien non plus. Et c'est une histoire formidable quand on pense que c'était dit par Khrushchev lui-même.
Le terme diplomatie signifie technique quotidienne des contacts officiels entre les nations du monde.
Johann Wilhelm Bayen, 1958.
Ces contacts étaient, avant la première guerre, canalisés par la voie des ambassades et les légations. Entre les deux guerres, les ministres se rencontraient aux séances de la Société des Nations et aux grandes conférences gouvernementales. Aujourd'hui, les relations personnelles dans le cadre des institutions internationales s'établissent entre ministres, et non seulement ceux des affaires étrangères, entre les représentants permanents des gouvernements dans les conseils des ministres internationaux, entre fonctionnaires, entre parlementaires, etc.
Général Vernon Walters, négociateur et interprète de Richard Nixon, 1996.
Je suis venu à Paris à partir du Vietnam. Je suis allé le voir avant d'aller au Vietnam. Il a dit, vous faites ce qui est juste et droit, vous devriez le faire. Arrivant à Paris comme président, il me donne des instructions pour entrer en contact avec les Chinois et avec les Nord-Vietnamiens. Les Nord-Vietnamiens d'abord, les Chinois ensuite. Et pour donner à l'ambassadeur de Chine, Wang Jian, à Paris, une lettre pour Mao Tse-tung. Alors à ce moment-là, quand les Chinois et nous nous voyons dans des réceptions à Paris, nous ne nous adressions pas la parole, nous ne nous serrions pas la main, nous feignions que l'autre n'était pas présent. Alors j'habitais à Neuilly, au bord du boulevard du commandant Charcot, au bord du bois de Boulogne, et les Chinois étaient non loin de là. Je suis allé à pied et ils m'ont reçu. Ils ont reçu la lettre, ils l'ont envoyée et nous avons commencé à discuter. Ceci était en parallèle avec les discussions avec les Vietnamiens.
C'était ultra secret, enfin
ultra
évidemment.
Ultra secret, les Chinois nous avaient dit, si à la moindre publicité, nous rompons immédiatement toutes les négociations. Les Vietnamiens ne savaient pas, je crois, que nous négocions avec les Chinois. Les Chinois savaient que nous négocions avec les Vietnamiens. Je ne sais pas comment, mais ils le savaient.
Et vous étiez au milieu de tout ça, j'insiste là-dessus, parce que personne à l'époque ne le savait, qui était au courant en réalité.
À Paris, personne. J'avais reçu des instructions très strictes du président de ne pas en parler à mes supérieurs hiérarchiques dans l'ambassade et au ministère de la Défense. J'ai obéi, mais alors il fallait que dans mon propre esprit, nous utilisions des espèces de noms de plumes. Alors comme j'avais commencé à discuter avec les Vietnamiens d'abord, je leur disais toujours c'est André qui appelle. Mais avec les Chinois, j'ai dit c'est Jean. Et eux s'identifiaient de la même façon. Eux, quand ils m'appelaient, ils disaient c'est André ou c'est Jean, pour marquer les interviews. Pendant cette période, j'ai dû rencontrer au moins 50 fois les Vietnamiens et au moins 50 fois les Chinois. Mais je crois qu'au fond, il y avait beaucoup là-dedans, qu'une solution au Vietnam dépendrait beaucoup d'une pression chinoise sur les Nord-Vietnamiens.
Le préjugé contre la diplomatie secrète qui prévalait après la Première Guerre était né de la peur des peuples d'être forcés à se battre pour endosser des obligations acceptées à leur insu. Et l'un des principes de la démocratie, c'est que ces obligations ne peuvent être souscrites sans traité voté par les parlements. Mais conclure un traité est autre chose que le négocier. Et une négociation pourrait être gravement compromise si les négociateurs n'étaient en mesure de s'entretenir confidentiellement.
Cela dit, il n'y a pas de négociation qui ne soit doublée. Aucune négociation n'est uniquement publique. Il y a toujours des canaux secrets.
Elias Sambar, écrivain et négociateur pour la Palestine, au micro d'Antoine Speer le 22 mai 1997.
Et puis ce que je dois vous dire, c'est que Le canal d'Oslo a été l'un des canaux, celui qui a abouti précisément. Mais je me souviens très bien, on peut le dire, pendant les deux années où nous avons négocié à Washington, il y a eu énormément d'intermédiaires qui se sont présentés, mais de toutes parts, porteurs de messages, qui sont repartis avec des réponses. Et ça a tout le temps foiré, ça ne marchait pas. Je me souviens très bien d'une tentative faite par un juif américain, d'ailleurs, qui est venu porteur d'un message de Rabin, auquel nous avons répondu. Il y a eu plusieurs allées-venues. Une partie de la délégation a dû faire l'aller-retour Washington-Le Caire pour finaliser l'affaire. Et puis, il s'est passé quelque chose au niveau interne israélien. Nous n'avons jamais su quoi, qui a fait capoter ce message. Et le jour où, selon le scénario pré-réglé dans les contacts secrets, notre délégation devait entrer en salle, dire certaines choses et s'entendre répondre d'autres par Eliakim Rubinstein, qui à l'époque dirigeait la délégation israélienne, Haider Abdeshafi, qui est le médecin de Gaza, qui était à la tête de la délégation palestinienne, entre en salle et se fait littéralement savonner par l'autre en lui disant « Comment osez-vous essayer de me doubler? J'ai appris que vous envoyez des émissaires directement chez Rabin. Ça ne se fait pas. Croyez-vous qu'Israël soit une république bananière ?» Et bien sûr, c'était de la frime. Nous savions très très bien. Et voilà une des occasions où ça a capoté. Donc il y a eu beaucoup de canaux et celui d'Oslo a marché. Il a marché grâce aux Norvégiens. Il a marché également parce que les travaillistes entraient en force dans la partie. Puisque vous le savez, la négociation a commencé avec le Likoud, hein, avec le gouvernement de Yitzhak Shamir.
Nous sommes en présence de deux parties qui négocient souvent avec une subtilité, une finesse et une connaissance du dossier qui nous échappent. Nous ne sommes pas toujours capables d'interpréter, en tout cas immédiatement, telle et telle de leurs décisions, telle et telle de leurs démarches.
Pierre Mendès France, le 27 janvier 1972, sur la paix au Vietnam.
En règle générale, je n'aime pas beaucoup la diplomatie secrète et les négociations secrètes. Je sais bien qu'il en a toujours existé et que même dans certains cas, ils ont rendu des services.
Vous l'avez fait.
Mais je crois que, d'une manière générale, ce qui est essentiel, c'est que, de part et d'autre, il n'y ait pas de mépris sur les intentions, sur les objectifs que l'on poursuit. Or, à l'heure actuelle, il existe certainement dans l'esprit du peuple vietnamien et des animateurs de son combat, un très grand doute sur la véritable volonté du gouvernement américain. Je ne sais pas si les dirigeants vietnamiens sont dès maintenant convaincus que les Américains sont vraiment décidés à lâcher prise et à renoncer à leur présence dans le sud-est asiatique.
Le 26 mai 1961, Louis Jox, ministre des Affaires algériennes et négociateur des accords d'Évian, s'adresse aux journalistes.
Bien, mesdames et messieurs, je suis heureux de reprendre contact avec vous, de vous revoir, et je me rends compte que les conditions de travail qui vous sont données ne sont pas toujours très pratiques pour l'exercice de votre profession. Je pense que le rythme de un jour sur deux ne permet pas beaucoup de meubler l'actualité. Je pense aussi que le fait de notre discrétion doit également être nuisible à vos propres entreprises. Je voudrais vous dire également que je crois de mon devoir de vous déclarer que ce n'est pas parce que je pars d'Évian personnellement, parce que je reviens à Évian, qu'il se passe toujours des choses sensationnelles. Je vous le dis parce que je ne voudrais pas vous donner un surcroît d'activité inutile.
Le vrai tournant, me semble-t-il, c'est la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'en 1914, on a l'impression que ce sont des petits cercles d'élite qui ont entraîné le monde entier dans la guerre. Et une grande part de la rhétorique du président Wilson, c'était de dire qu'il fallait passer à la diplomatie publique, qu'il fallait que l'opinion publique, qui par nature serait sympathique et qui par nature aimerait la paix, puisse peser sur les négociations. Ce qui veut dire que les traités de Versailles a été un barnum avec, évidemment, il y avait une attente après ces années de guerre absolument considérable, donc tout le monde voulait avoir des informations et autres, et gérer ça était extrêmement compliqué. En fait, on est toujours aujourd'hui dans des négociations aussi secrètes. Vous avez aussi d'ailleurs parfois le choix de faire négociations dans un lieu un peu neutre. On a parlé du conflit israélo-palestinien et des négociations qui ont lieu à Oslo de façon secrète, avec médiation norvégienne, etc. On pense que c'est mieux pour des gens qui se sont fait la guerre de ne pas se montrer par rapport à leur propre camp et notamment de leur faucons, puisqu'on les appelle donc les durs, en train de discuter, négocier, etc., qui sont souvent d'ailleurs des éléments préparatoires pour un accord final. Donc, qu'est-ce qui est public, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui doit donner lieu à des photos de journalistes, qu'est-ce qui ne l'est pas, tout ça est très largement négocié par le protocole et les équipes, évidemment, de communication des différentes parties. Le problème qui se pose, alors évidemment, il est décuplé ou multuplé, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ce qui n'était pas le cas évidemment à cette époque, c'est que toute petite phrase qui pourrait être interprétée comme peut faire dérailler une discussion ou au contraire la faire avancer, c'est toute la question. Par exemple, des leaks, hein, le fait qu'on fasse fuiter finalement un élément pour faire pression sur la partie adverse, pour montrer qu'on a des bonnes intentions. Donc il peut y avoir un jeu avec la presse, et d'ailleurs la sélection des journalistes entre guillemets embarqués, c'est pas comme la guerre, mais qui sont quand même embarqués dans ce type de négociation, on va pas prendre un journaliste totalement amateur, apôtre de sensations fortes, et qui va essayer de trouver la petite bête ou prendre une photo qui risque des problèmes.
Comme on sait, c'était aujourd'hui la première journée de la conférence de la paix. Partout dans le monde, ce soir, on a lu, vu ou écouté les premiers discours de cette première journée, prélude à l'organisation de la paix universelle.
Paris, Palais du Luxembourg, le 1er juillet 1946.
Si le monde entier peut commenter les impressions ressenties par les événements de ce jour, c'est que des centaines et des centaines de journalistes de presse, de radio, de photos, de cinéma de tous les pays sont les hôtes de Paris. Et vous avez dû sûrement en rencontrer au hasard, dans la rue, porteur du petit insigne bleu clair de la conférence de Paris. Pour l'instant, un grand nombre d'entre eux sont réunis au bar qui leur a été réservé, véritable tour de Babel, dans l'une des salles du Luxembourg, dont les fenêtres ouvrent largement sur les terrasses du jardin ensoleillé.
Et voici maintenant un représentant des agences ou de journaux polonais. Vous représentez qui ?
Oui. Je suis des militaires presse.
Vous étiez correspondant de guerre,
je crois. Oui, je suis correspondant de la guerre, mais pas maintenant, parce que la guerre est finie. Alors, c'est une autre chose, c'est correspondant de la paix.
Hein? Avec l'uniforme.
Avec l'uniforme.
Vous venez d'où ?
Quoi ?
D'où venez-vous ?
Oh, je comprends pas.
De quel endroit, de quelle ville venez-vous ?
De quelle ville ? De Varsovie.
Directement ?
Directement de Varsovie.
Comment êtes-vous venu ?
Par avion.
Vous avez mis longtemps ?
Quoi ?
Vous avez mis longtemps ?
Mille longtemps.
Beaucoup de jours.
Beaucoup de jours, pas du jour par avion, alors c'est deux jours, c'est justement.
Et alors, vous téléphonez vos papiers ou bien vous les envoyez par télégramme ?
Non, par avion.
Par avion, chaque jour. Et voici maintenant un autre grand voyageur qui vient de Roumanie, celui-ci, et qui représente qui ?
Les journaux socialistes de Roumanie.
Vous étiez de quelle partie de la Roumanie venez-vous ?
Je ne viens pas maintenant tout de suite de Roumanie parce que j'ai fait un tour par l'Angleterre, par l'Italie et je reviens en France après 5 ans de captivité que j'ai fait au nom de la France.
Vous connaissez bien la France
avant ? Je la connais très bien. J'ai été soldat français et j'ai été 5 ans captif sous uniforme française et en qualité de français.
Pouvez-vous nous donner vos impressions de cette première journée à Paris ?
La première journée à Paris s'est passée dans le calme, dans la dignité. Espérons-le que c'est un bon signe. Parfois, le bon temps veut dire un mauvais temps après. Mais nous espérons que ça sera quand même du beau temps jusqu'à la fin.
Je vous remercie beaucoup, monsieur.
Pour moi, les leçons de la crise des fusées de Cuba sont importantes.
Pierre Salinger.
C'était une crise qui risquait tout par l'erreur ou par le malentendu. Et tout pendant ces 9 jours où j'ai vécu à la Maison-Blanche, où on dormait par terre dans nos bureaux. Et on dormait pas beaucoup, peut-être 1 heure, 2 heures par nuit. Le danger était que, par des communications qui étaient mauvaises, que d'une façon ou d'une autre, un côté ou l'autre côté ne comprend pas. Je vais expliquer ce que je veux dire. Nous avons trouvé, pendant la crise des fusées de Cuba, que les méthodes normales de communication entre les États-Unis et l'Union soviétique, ça veut dire les méthodes diplomatiques, n'étaient pas du tout à la hauteur du problème. C'était des fois 18 heures, même 20 heures, avant qu'un message envoyé par le président Kennedy était devant Khrushchev. Et nous n'avions pas le temps de faire ça. C'était trop dangereux. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons commencé à, quand nous avions quelque chose à dire à M. Khrushchev, de faire des déclarations à la presse qui avaient un contenu qu'ils pouvaient comprendre et qui pouvaient arriver rapidement par les méthodes de presse sur le bureau de M. Khrushchev. Le téléphone rouge n'existait pas à l'époque. Ça, c'est une histoire assez drôle parce que... Mais je me souviens qu'en janvier de 62, je suis venu à Paris pour proposer 2 choses. L'idée d'un débat télévisé entre M. Kennedy et M. Khrushchev. La deuxième chose que j'ai proposée, c'était l'établissement d'une ligne téléphonique entre la Maison-Blanche et le Kremlin pour éviter des dangers dans une crise mondiale. Les Soviétiques ont refusé ça. Et c'est seulement après la crise des fusées de Cuba, quand on avait réalisé comment les méthodes de communication étaient mauvaises, quand nous avons vu où ça nous a mené et le danger que ça nous a posé, que les deux côtés ont accepté l'idée d'installer cette ligne, qui est vraiment pas un téléphone, il faut expliquer. C'est vraiment un télétype qui est installé entre Washington et le Kremlin, et dans laquelle on peut écrire des messages par l'écrit, mais pas par voix.
Messieurs, la première chose à faire, c'est de régler la méthode de notre travail. Et je vous propose de prendre pour base de notre discussion les suggestions du Conseil des ministres des Affaires étrangères pour l'organisation et la procédure de la conférence de la paix et de discuter autant que possible, paragraphe par paragraphe.
Alors bien sûr, c'est quelque chose qui est un enjeu.
Nicolas Offenstadt.
C'est-à-dire que là aussi, et là, évidemment, on le voit dès le Moyen-Âge, hein, c'est quelque chose qu'on va trouver dans les instructions aux ambassadeurs, dans les instructions missions, qu'on va retrouver évidemment, c'est de savoir quelles sont les langues qui vont être employées, comment elles vont être employées, et souvent, d'ailleurs, quand on veut créer un incident, ou quand on veut au contraire exercer une pression, on va considérer qu'on ne comprend pas l'adversaire ou qu'il n'a pas employé la bonne langue. Et donc ça, c'est frappant aussi. D'ailleurs, il y en a qui savent très bien parler les langues, mais qui, en termes de rapport de force, vont pas vouloir les utiliser officiellement. Par exemple, Clémenceau va parler français pendant les négociations officielles, mais sait très bien parler l'anglais lorsqu'il négocie off. Voilà. Donc du coup, vous voyez, il y a toujours un jeu sur les langues. Et donc je dirais que d'une certaine manière, il y a un parallèle à faire entre les langues et les lieux, c'est-à-dire que ce sont des enjeux. Ce n'est pas simplement des affaires techniques pour être pratiquement efficaces. On le voit dans de très nombreuses négociations. La fixation de la langue dans laquelle on parle, voire le changement de langue à un moment, c'est toujours un moyen d'instaurer des rapports de force, de les exercer. Et donc, du coup, la langue aussi est très, doit être vue comme un outil diplomatique et pas seulement comme un outil technique de la diplomatie.
La question de la langue de la diplomatie, les choses sont quand même relativement simples, c'est-à-dire que le français a très longtemps, 18e, 19e siècle, a été la langue de la diplomatie.
Pierre Grosser.
Et puis c'est l'anglais qui est devenu progressivement, au 20e siècle, la langue de négociation. Et donc là, on retrouve un autre problème, qui est évidemment la question des interprètes. Et de savoir qui est-ce qui va traduire est très important. Est-ce que vous venez avec votre traducteur? Vous acceptez que l'autre partie est son traducteur, ce qui est un risque. Chamberlain, à la conférence de Munich, n'est pas venu avec son propre traducteur, et donc il dépendait du traducteur allemand. Tout ça, et c'est là où le protocole a un rôle important, et toute la préparation à l'amont, les secrétaires généraux des conférences, etc. Tout à l'heure, on faisait allusion aux négociations israélo-palestiniennes. Dans les années 90, vous aviez de plus en plus de Palestiniens formés dans les universités américaines, donc ils comprenaient absolument toutes les allusions, tous les... le champ sémantique de tout le discours juridique américain, des relations internationales. Et c'était un atout absolument considérable. C'était le cas aussi quand les Mexicains négociaient avec les Américains pour des accords de libre-échange. C'était des copains de chambrée à l'université. Donc, c'est très important, ces codes. Alors qu'au contraire, par exemple, les Vietnamiens, j'allais dire qu'ils sortaient de leur rizière, de leur combat dans leur rizière, ils étaient souvent très intransigeants. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur de se faire rouler par ces Français qui avaient des compétences juridiques, qui arrivaient à tourner les choses, à embrouiller tout le monde avec... Enfin, pas embrouiller tout le monde forcément méchamment, mais parce que, voilà, il y a des codes, et les Vietnamiens ne connaissaient pas ces codes.
Assis sur un grand rocher plat, j'ai fumé en les regardant contourner la montagne pendant des kilomètres, tantôt disparaissant derrière les buissons ou un bouquet d'arbres, un creux ou un ruisseau, tantôt reparaissant jusqu'à ce que, serpentant derrière une haute saillie, ils disparaissent complètement. À mes côtés, Jeffords et Cochise fumaient et conversaient parfois en espagnol, une langue que le vieux chef connaissait mieux qu'il n'a jamais voulu l'admettre, car dans toutes ses entrevues, il a toujours exigé que l'anglais soit traduit en espagnol, et après en apache. L'assemblée officielle s'est tenue à l'ombre d'un grand arbre. Plus exactement, le plus d'apaches possible ont pris place à l'abri de son feuillage, et les autres se sont groupés autour en plusieurs cercles. Au milieu était assis Cochise, et plusieurs de ses conseillers, ainsi que le général Howard, Jeffords, notre interprète et moi-même.
Allô Paris, ici Genève. Petit à petit, Genève retrouve ses allures de grande capitale internationale.
1954, conférence sur l'Indochine.
Bien que tous les chefs de délégation ne soient pas encore arrivés sur les bords du lac Léman, une activité progressive s'empare de toute la ville. Sur le quai des Bergues, le trafic est devenu intense et somptueuses voitures de marque russe et américaine font constamment la navette entre les différents hôtels où sont logées les délégations et le palais des Nations Unies. La question du logement fut la première qui préoccupait les autorités suisses. Et le conseil municipal a dû user de beaucoup de persuasion et de diplomatie, aussi bien auprès des hôteliers qu'auprès des délégations, pour arriver à satisfaire tout le monde. Finalement, tout le monde est logé. Les Américains ont loué les deux derniers étages de l'hôtel du Rhône, les Russes occupent entièrement l'hôtel Métropole qui a été spécialement aménagé pour eux, les Chinois sont au Richemont, les Sud-Coréens à l'hôtel des Familles, les Anglais seront à l'hôtel Beau Rivage et la plupart des Français seront à l'hôtel des Bergues. En dehors de ces hôtels, certains chefs de délégation ont loué des villas particulières qui, pour la plupart, se trouvent dans la charmante petite ville de Versoix, à 10 km environ de Genève sur la route de Lausanne. C'est ainsi que se retrouveront voisins dans la campagne, M. Molotov, M. Schoenlai et le général nord-coréen Nam Hill. Peut-être M. Bideau habitera-t-il aussi Versoix, à moins qu'il ne préfère une autre villa située tout près du palais des Nations Unies. La présence des délégations asiatiques constitue bien entendu la grande attraction de cette conférence. Les Genevois considèrent avec curiosité ces promeneurs inhabituels venus de l'autre bout du monde et que personne n'est encore capable d'identifier avec certitude. On risque bien entendu de confondre Chinois et Coréens et, ce qui est encore beaucoup plus grave, de confondre Nord-Coréens et Sud-Coréens. L'aérodrome de Cointrin a été pratiquement pris d'assaut par les photographes, les cinéastes et les journalistes depuis deux jours. Les autorités suisses, très aimables, facilitent au maximum la tâche de la presse et chaque arrivée d'avion soviétique en provenance de Berlin est le signal d'un rush immédiat de tous les journalistes sur la piste d'atterrissage. Détail assez curieux, tous les avions soviétiques doivent prendre à leur bord un navigant américain, car comme les pilotes russes ne parlent pas l'anglais, ils ne peuvent pas comprendre les ordres donnés par la tour de contrôle de l'aérodrome de Genève, car vous savez que c'est la langue anglaise qui est considérée comme langue internationale pour la navigation aérienne en Europe occidentale. Ils doivent donc avoir recours à l'aide d'un navigateur de l'aviation militaire américaine, et c'est donc assez paradoxalement un navigateur américain qui a guidé vers Genève le général nord-coréen Nam Hill. La sécurité aérienne a donc des obligations que la politique ignore. Et détail également, le navigateur américain ignorait complètement qui il pilotait vers Genève.
Alors la conférence de Genève est assez fascinante, hein, comme on l'entend, parce qu'en fait c'est une négociation finalement très classique. Ce qui est assez particulier, puisque finalement, par exemple, la France refusait de négocier directement avec Ho Chi Minh et était beaucoup plus à l'aise, finalement, dans des grandes conférences internationales, dans des lieux que tout le monde connaissait. D'ailleurs, le plénipotentiaire, celui qui va diriger la délégation française, Chauvel, va être ensuite ambassadeur en Suisse. Et la Suisse a toujours été un lieu de contact diplomatique plus ou moins officieux. Et par exemple, à cette époque-là, les États-Unis ne reconnaissent pas la Chine de Mao. Et de 55 à au milieu des années 60, il va y avoir des négociations, en fait, entre ambassadeurs américains et ambassadeurs chinois. Pas secrètes, mais enfin, bon, disons, très parallèles, parce que Genève est voilà, la ville de la paix. D'ailleurs, quand vous allez à Genève, on vous dit tout le temps, c'est la grande ville de la paix, c'est là où nous avons... C'était le siège de l'SDN, quand même. Hein, donc, voilà. C'était tout à fait important d'être à Genève. C'est l'endroit qui est classique. Ce qui va être la grande révolution, c'est l'année suivante, où ce n'est pas une conférence de paix, mais la première grande conférence internationale qui se passe hors du sol traditionnel européen ou américain, c'est la conférence de Bandung, qui a donc lieu en 1955, afro-asiatique, comme symbole. C'était voilà, sur l'île de Java, enfin, quelque chose de totalement différent de cette diplomatie très compassée, très habituelle que l'on avait à Genève.
Depuis que la diplomatie existe, même si le terme n'existe pas, la question de l'organisation des négociations et du cérémonial est fondamentale, et le choix du lieu aussi. Alors pourquoi ? En fait, il y a plusieurs enjeux emboîtés. Le premier enjeu emboîté, il est symbolique, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a certains lieux, et on le voit d'ailleurs même dans les textes, l'eau, notamment les lacs, auraient des vertus apaisantes. Hein, donc du coup, effectivement, le lac Léman, les villes balnéaires, les villes d'eau. Il y a, disons, une dimension liée au lieu lui-même, à sa nature, qui peut évidemment jouer un rôle dans le choix. Deuxième élément, sans doute plus facile à identifier, pas forcément plus profond, mais plus facile à identifier, c'est évidemment la question d'une certaine neutralité. C'est-à-dire qu'il faut, dans la conception des lieux, on cherche, lorsque on négocie, à ce que chaque partenaire puisse trouver là l'idée qu'il est en capacité de négocier selon sa position. Et ça pouvait aller très loin. Il y avait même au Moyen-Âge une petite église qui avait la chance d'être sur la frontière entre deux comtés. Donc chacune des négociations pouvait entrer à partir de son territoire et on se retrouvait au milieu. Donc, vous voyez, la pensée spatiale de la neutralité, ça pouvait aller très très loin et ça joue un rôle très important. Le lieu lui-même est une question de négociation. Hein, c'est-à-dire qu'on voit sans cesse les négociateurs tout au long de l'histoire discuter sur le lieu, est-ce qu'il est suffisamment neutre, est-ce qu'il est suffisamment de bonne constitution pour que chaque délégation y trouve sa place, c'est un enjeu.
Dès l'annonce de la rencontre, la machine s'est mise en marche, renfort des effectifs, hommes postés au coin stratégique, hélicoptères, patrouilles sur le lac.
Genève, le 9 janvier 1991.
Le seul vrai problème, c'est la cohabitation avec les gardes du corps de la délégation américaine. Pour Gérard Maury, de la police de Genève, pas question, cette fois, de laisser les cow-boys faire leur loi.
Je crois qu'il y a peu de pays qui réclament autant de sécurité que les Américains. On a eu une petite bousculade lors de la dernière réunion entre messieurs Bush et Assad, mais nous avons démontré une certaine fermeté afin que l'incident ne dégénère pas.
À l'intercontinental, on est également rodé. La rencontre Tarek Aziz Baker est la 20e de ce genre. En un quart d'heure, le dispositif s'est mis en place. On a même prévu l'incident diplomatique. Herbert Schott, directeur général de l'intercontinental.
Ils arrivent les uns après les autres. En principe, une fois arrivés à l'hôtel, ils ont chacune un ascenseur à la disposition. Donc, il est pratiquement impossible à ce que les deux délégations se croisent, c'est pas possible.
Tard dans la soirée, les délégations inspectaient les quatre salons où pourront se tenir les discussions. Chacun y trouve des avantages et des inconvénients. Les paris font pencher la balance pour la pièce dénommée le Salon Suisse, une pièce qui pourrait constituer un parfait terrain neutre. Genève, Gérard Zédoni, France Info.
Vous savez, les Américains étaient un peu les grands maîtres du jeu et même du ballet des négociations, puisqu'ils ont inventé une sorte de négociation nomade. Vous savez, nous avons à chaque fois négocié dans une ville quelque part. Ce qu'il faut savoir, et ça j'y ai assisté dans le cadre des négociations, les Américains monnayaient le déroulement d'une session dans un pays comme un cadeau, un bon point. Quand ils voulaient récompenser un pays, ils disaient « la prochaine session se tiendra à Tokyo ou à Oslo ». Il y avait une véritable bataille entre les pays pour accueillir, ce qui montre quand même l'importance qu'ils donnaient à ce processus.
La question de l'asymétrie est vraiment fondamentale, quoi. Quand vous avez face à vous, encore une fois, des spécialistes des négociations, des gens qui sont très pointus en termes de comme juristes, c'est très difficile, hein. Et un certain nombre de Palestiniens, alors il y en avait toute une élite qui était allée dans le Golfe, aux États-Unis, etc. Mais sinon, ceux qui étaient avec Yasser Arafat, qui étaient allés au Liban, qui étaient à Tunis, etc., n'avaient pas cette habitude. C'est des combattants, quand même, très largement. Et passer de combattant à négociateur, responsable, avec la communauté internationale, ça ne s'improvise pas.
Permettez que je vous parle un peu plus de mon opinion sur la politique américaine. Parce que nous sommes les plus concernés.
Madame T.B. Nguyen, négociatrice au Vietnam, le 17 novembre 1970.
Eh bien, nous considérons que ces agissements des Américains dans ces derniers jours au Nord-Vietnam est une partie intégrante de la politique américaine au Vietnam et en Indochine. Et nous avons toujours montré que les États-Unis, bien qu'ayant subi des défaites successives, s'obstine dans la poursuite de sa politique d'agression et d'extension de la guerre. Et pourquoi? Pour chercher à s'acquérir une position de force et à imposer à nos peuples, c'est-à-dire le peuple vietnamien, le peuple d'Indochine, leur domination néocolonialiste. C'est ça la politique. Eh bien, j'ajoute, permettez que j'ajoute, et ça, c'est ça la raison essentielle qui a causé l'impasse de la conférence de Paris.
La réponse à cette asymétrie entre, je veux dire, une puissance installée qui a des siècles d'expertise dans la négociation et des gens qui sortent du maquis pour aller vite, hein, que ce soit en Algérie, en Indochine ou partout, en Angola ou autre. Cette asymétrie, comment est-ce que vous essayez de la limiter? La première, c'est par l'inflexibilité. C'est l'arme des faibles. La plupart du temps, nous, on a eu Général de Gaulle en 40. Il a été inflexible sur la plupart des dossiers avec les alliés parce qu'on était faible. Eh bien, donc là, dans les négociations, c'est pour ça que souvent, on a l'impression de gens fermés qui répètent toujours la même chose, qui veulent toujours exactement la même chose, etc. Mais voilà, c'est parce qu'on est si faible. Et l'autre élément, bien entendu, c'est d'essayer de faire la double pression militaire, évidemment, sur le terrain et en mobilisant l'opinion internationale. Il y a des grands débats aujourd'hui à la fois sur la guerre du Vietnam et sur la guerre d'Algérie, pour essayer de montrer que, en fait, le succès a été moins un succès militaire, finalement, qu'un succès diplomatique, en arrivant à faire que l'essentiel de l'opinion internationale, dont évidemment l'opinion américaine ou l'opinion française, considère que ça ne vaut plus le coup de continuer ce conflit, et qu'à partir du moment où les décideurs constatent qu'ils gaspillent du crédit à continuer la guerre, cherchent une issue, quitte à faire des concessions. On sait aujourd'hui que de Gaulle, dès 1961, était persuadé qu'il fallait vraiment accélérer le retrait, que l'Algérie était perdue et autres.
Bon, mais Madame Bean, quelle serait d'après vous la concession qui serait nécessaire de la part des Américains pour dégeler la conférence? Parce que quand on est autour d'une table de conférence et qu'on s'est réuni 93 fois et qu'on est arrivé nulle part, il faut donc à ce moment-là chercher la conciliation, tout au moins les concessions, ou voir comment chacun peut assouplir sa position.
Eh bien, pour nous, pour que la conférence puisse progresser, il faut que les Américains aient réellement pour la cessation de la guerre. Et le respect réel des trois nationaux les droits nationaux et le droit à l'autodétermination de notre population. Je dis bien le respect réel.
Qu'est-ce que vous appelez la cessation de la guerre, Madame Bean? C'est le cessez-le-feu ou...
C'est-à-dire qu'ils veulent bien mettre la fin à la guerre. Et pour mettre fin à la guerre, il faut qu'ils consentent de retirer toutes les troupes américaines hors du Sud-Vietnam. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, il y a le problème politique. Il faut qu'ils ne nous imposent pas un régime que toute la population du Sud-Vietnam est contre.
Le soir même, le président Nixon, dans un message radio-télévisé, annonce qu'un accord pour déterminer la guerre et rétablir la paix au Vietnam sera formellement signé par les parties à la conférence sur le Vietnam le 27 janvier 1973 et que le cessez-le-feu entrera en vigueur à 24 heures GMT.
Pour moi, il faut distinguer d'une part le rêve que nous avons pour Jérusalem de la négociation. Et il faut dire que, si l'on veut être concret, pratique et réaliste, la négociation, en tous les cas, maintenant, ne sera pas à la hauteur du rêve. Il ne faut pas se faire d'illusions.
Pour personne.
Pour personne. Donc il faut, si l'on veut négocier aujourd'hui, procéder à certaines choses très très simples.
Après avoir vu tant de drames, d'horreurs, de souffrances, après tant de rebondissements et d'occasions perdues, souhaitons que ce cessez-le-feu soit le prélude à une paix durable et à une véritable réconciliation de tous les peuples d'Indochine. C'est sur cette table que demain, l'accord sera signé.
Il faut, je pense, distinguer la négociation séculière de la négociation religieuse. Nous ne pouvons pas négocier le religieux. Qui peut négocier le degré d'attachement sentimental ou de mémoire à un lieu? C'est pas négociable. Nous ne pouvons pas négocier des rêves. Ce n'est pas négociable. Négocions le séculier. Négocions la gestion. Négocions le territoire qui a été occupé. Et à partir de là, je suis sûr que vous mettez de côté très très vite tous les ressentiments, toutes les tensions, toutes les passions. Il reste une dernière chose. Le rêve, parce que nous sommes en train de parler de la négociation. Pour moi, l'idéal, c'est que ça devienne la capitale des deux États.
Merci à Nicolas Offenstadt et Pierre Grosser. Lecture, Olivier Martineau. Prise de son, Thibaut Nassim Ben et Laurent César. Mixage, Manon Houssin. Documentation, Anne-Lise Signoret. Archivina, Véronique Jolivet. Attachée de production, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. LSD, hisser les drapeaux blancs, comment faire la paix. Deuxième épisode, sur le front des négociations. Un documentaire de Marie Chartron, réalisé par Franck Lilin.